Connaissances et témoignages. Chers auditeurs, il n'est pas fréquent de recevoir au micro de nos radios chrétiennes un cardinal archevêque. Eh bien, tout arrive puisque j'accueille aujourd'hui Monseigneur Barbarin, cardinal archevêque émérite de Lyon. Monseigneur, bonjour.
Bonjour madame et bonjour à tous les auditeurs. Je crois que c'est la première fois que je parle dans cette radio, donc c'est un grand honneur pour moi.
Et pour nous aussi. Alors, votre nouvelle responsabilité d'aumônier pour le diocèse de Rennes, aumônier à la maison mère des petites sœurs des pauvres, vous a un peu rapproché de nous, ce qui explique en partie notre rencontre aujourd'hui. Pour faire plus ample connaissance, je retrace un peu votre parcours. Vous êtes né à Rabat, vous faites le séminaire, vous êtes ordonné prêtre en 1977, consacré évêque en 1998. Vous êtes archevêque de Lyon de 2003 à 2020 et vous avez été créé cardinal en 2003.
Ah, j'étais archevêque de Lyon en 2002.
Ah, donc, petite erreur. Et puis, ces cinq dernières années, vous avez été au cœur d'une procédure éprouvante autour du drame touchant toute l'Église, celui des actes pédophiles perpétrés par des membres du clergé catholique. Vous êtes condamné pour non-dénonciation de ces pratiques effarantes antérieures à votre venue à l'archevêché de Lyon. Vous présentez votre démission au pape François qui la refuse. Et enfin, vous êtes relaxé par la cour d'appel de Lyon en janvier 2020. Donc vous quittez de toute façon votre diocèse lyonnais et vous voici maintenant dans le diocèse de Rennes. Vous publierez un livre en octobre 2020, En mon âme et conscience.
Alors, je peux rajouter une petite chose?
Justement. À vous.
C'est un beau crochet quand même de 94 à 98, mon 14-18 comme je dis, où j'ai été envoyé en mission à Madagascar. C'était très important, donc je suis allé à Fianarantsoa, il y avait beaucoup de prêtres à former, mais peu de prêtres pour les former. Donc il faut s'habituer à une toute autre église, toute autre culture. C'était plein de fruits, quoi. J'en suis très content.
Une belle expérience.
Oui.
Donc, on va terminer sur ce sujet. Simplement, je voudrais dire que ce drame de la pédophilie par des gens d'église, c'est une blessure immense, en tout premier lieu pour les victimes. Vous commencez, dites-vous, chaque jour votre prière en citant leur nom?
Oui, j'ai une image, une peinture du Christ en croix, peint par une religieuse que j'aime bien, que je connais bien. Et au dos, j'ai mis tous leurs noms.
Oui. C'est vrai que ce procès a été celui d'un homme, vous-même, hein, jugé par les tribunaux. Mais assurément, pour l'opinion publique, ça a été le procès, bien sûr, d'une institution. On laisse à la justice le soin de bien discerner pour juger. Et on va passer maintenant à un sujet plus général. Sauf si vous avez quelque chose à rajouter.
Oh non.
Sur ce sujet. Pour nos auditeurs, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur la différence entre être évêque et cardinal ?
L'évêque, c'est le pasteur d'un diocèse. Il n'y a qu'un seul pasteur pour l'Église, c'est Jésus. Son vicaire sur la terre, c'est le pape. Il est le pasteur de l'Église universelle. Donc, il est l'évêque de Rome, mais en même temps, il est le pasteur direct de tous les catholiques du monde. Et après, il nomme dans chacun des diocèses un évêque. Donc, au début, il y en avait 12. Aujourd'hui, il y en a 5000 ou 6000. Et très souvent, on fonde un nouveau diocèse en Afrique, en Asie, etc. Parfois, quand c'est des petits diocèses en Europe, on les regroupe, au contraire, parce que dans les campagnes, ça s'est un peu désertifié, ce serait trop petit. Donc, il y a 5 ou 6 000 évêques qui sont les pasteurs des différents diocèses du monde. Il y a des pays comme l'île Maurice où il y a un évêque, évidemment, mais le Brésil où il y en a 400. Ah ouais. Donc, en France, il y a une centaine de diocèses. Le pape nomme 120 personnes, normalement, de moins de 80 ans, qui sont des électeurs de son successeur. Donc les cardinaux, de manière fictive, on les fait curés d'une paroisse romaine. Donc moi, je suis curé de la Trinité des Monts.
Ah oui,
ce qui fait que ce sont les curés de Rome, mais c'est fictif, hein, qui sont les électeurs du pape. Le pape Paul VI avait dit, regardez dans les actes des apôtres, quand il faut choisir un nouvel apôtre après le départ de Judas, ils étaient 120. Il priait et il disait à Dieu, montre-nous celui que tu as choisi. Et c'est comme ça qu'a été choisi Matthias. Donc, les cardinaux, qui sait ce que le pape veut. Souvent, ce sont ses proches collaborateurs au Vatican. Il y a souvent une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de cardinaux au Vatican ou en Italie. Et puis après, souvent les archevêques des grandes villes. Mais qui il veut, c'est à lui de choisir. Par exemple, le pape François, qui fait toujours un peu autrement, comme vous savez, vu les énormes souffrances de la Syrie et tout, le nonce apostolique, c'est-à-dire son ambassadeur, qui n'est pas directement un pasteur, le nonce apostolique en Syrie, l'a nommé cardinal.
Ah oui.
Pour dire à la Syrie, je pense à toi, je pense à tes souffrances, voyez. Donc, par exemple, celui qui est son aumônier et qui s'occupe des pauvres du quartier à Rome, qui est un prêtre polonais, il l'a nommé cardinal aussi.
Ah
C'est-à-dire, on sait bien, c'est très logique avec lui, vous voyez, parce que lui, il est tellement attaché à l'attention aux pauvres, à l'accueil des pauvres, à l'hospitalité, etc., qu'il a quelqu'un à côté de lui qui distribue tout l'argent qu'il peut distribuer et qui accueille et qui cherche des endroits pour dormir, pour ci et pour ça. C'est une fonction tellement importante qu'il dit, je veux que celui-là soit l'électeur de mon successeur, etc. Donc, il y a une règle générale, sont électeurs du pape les cardinaux de moins de 80 ans, au-delà de 80 ans, ils n'élisent plus. Là, par exemple, il vient d'en nommer un certain nombre, voilà. Donc, il choisit un peu. Parfois, il nomme quelqu'un de plus de 80 ans en disant « c'est une tellement belle figure que je suis heureux de dire ça, c'est-à-dire regardez, c'est un bon exemple pour vous. » Ça peut être un exemple d'un bon pasteur, d'un grand serviteur, d'un grand théologien. En France, par exemple, le père Henri de Lubac, c'était un vieux jésuite, et quand il a eu 86, 87 ans, le pape Jean-Paul II l'a nommé cardinal en disant, vous savez, les livres qu'il a écrits, c'est un grand trésor pour l'Église.
C'est une reconnaissance.
Le père Congar aussi.
C'est une reconnaissance, en fait.
Voilà. De... Alors, eux, ils ne seront pas électeurs, ceux-là. Mais, donc, moi, c'est comme ça que j'ai participé à deux conclaves en 2005 et en 2013. Grosso modo, je sais qu'aujourd'hui, si le pape meurt aujourd'hui, par exemple, on est un petit peu plus de 120, là, maintenant.
Et puis, voilà. En France, 6 cardinaux, c'est ça. Ils sont tous électeurs ?
Non, non, non. Le cardinal Poupard, il a 90 ans, le cardinal Vanois, il en a 94. Donc, en fait, il y a le cardinal Mamberti, qui est un des collaborateurs du pape, c'est le grand responsable de tout le droit, de tous les jugements, ce qu'on appelle la signature apostolique. Et après, résidente en France, il y a le cardinal 23, le cardinal Ricard et moi. Et certainement, il va y en avoir bientôt, parce que c'est un peu bête que les trois cardinaux électeurs ne soient plus évêques d'une ville, d'un diocèse, quoi. Donc, probablement, dans une prochaine nomination, il va y en avoir 3-4 autres. Avant, si vous voulez, traditionnellement, il y avait toujours un cardinal à Paris et un cardinal à Lyon.
Oui, toujours, c'est ce que voilà. Je retenais, moi.
Mais avec le pape François, les habitudes changent. Bah, il a le droit. On sait bien qu'il change toutes les habitudes, lui. Les gens ont compris.
Et alors, sinon, quand je regarde votre biographie, vous êtes un grand écrivain. Vous avez publié de très nombreux ouvrages. Je pense qu'il reflète certainement les aspects phares un peu de votre personnalité ou de votre foi. Et je retiendrai surtout trois thèmes. Hein. C'est le dialogue interreligieux, votre livre sur Jean-Paul II et bien sûr les chrétiens d'Orient. Le dialogue interreligieux, vous avez écrit plusieurs ouvrages là-dessus et vous aviez des liens très forts avec le grand rabbin de Lyon. Avec
le rabbin de France aussi. En fait, c'est vrai. D'abord, je suis né au Maroc. Donc, moi, je me rappelle mon copain de classe en CM2, c'est-à-dire que ça s'appelait la 7e à l'époque. C'est une école catholique, chez les frères écoles chrétiennes, l'école de La Salle. Et lui, il se lève en classe, il dit « moi, je ne suis pas catholique, je suis juif ». Et le grand rabbin du Maroc, il s'appelle Pinto, c'était lui. Donc, c'est rigolo. En fait, je vivais en pays musulman, où les juifs avaient une grande importance. Le roi du Maroc a toujours eu un très bon contact avec les juifs. Ils ont fait très attention à lui quand il avait été exilé à Madagascar. Ils avaient tout recueilli chez eux et ils lui avaient rendu tout dès qu'il était revenu pour que ce ne soit pas ni touché ni pillé. Donc il y a une place, une belle place. Plusieurs des grands rabbins français, le rabbin Messas par exemple, qui était grand rabbin de Paris. Il était né à Meknès au Maroc et puis après le roi du Maroc lui avait donné la grande décoration, leur légion d'honneur à eux qui s'appelle le Wissam Alaouit, etc. Donc, le contact pour moi avec les musulmans, avec les juifs, c'est depuis toujours. Quand j'ai été vicaire à Vincennes, j'allais toujours à la prière de Yom Kippour. Parce que je les aimais bien, parce que je m'entendais bien avec lui, parce que c'est toujours bien d'aller demander le pardon de ses péchés en chantant les psaumes, que ce soit chez les juifs ou chez nous. Il y a quand même une fraternité qui existe. Alors ça, je l'ai toujours continué quand j'étais évêque. Et c'est vrai qu'à Lyon, c'est devenu vraiment une belle amitié. Et j'ai repris pour le diocèse de Lyon une habitude que j'avais trouvée en Italie. Du 18 au 25 janvier, on a la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Donc le 17, venez tous les chrétiens, les orthodoxes, les protestants, on va aller discuter avec les juifs. Parce qu'ils sont nos pères dans la foi. Aussi bien pour les orthodoxes que pour les protestants ou les catholiques. Et on a instauré cette habitude d'un dialogue judéo-chrétien. J'étais très content parce que mon successeur, Mgr Olivier de Germay, au mois de janvier dernier, il a eu une conversation avec... Il était le nouvel archevêque de Lyon et avec le nouveau grand rabbin, parce que le grand rabbin a changé au même moment. Je trouvais que c'était sympa. Donc ils ont parlé. C'est très beau comme sujet, la prière. Comment tu pries ? Donc écouter un juif pour savoir comment il prie, et les juifs écouter un chrétien pour savoir comment il prie, c'est bien, quoi. Et après, on a eu beaucoup, beaucoup de discussions avec les musulmans, parce que là, il y avait une amitié très profonde avec le recteur de la mosquée de Lyon, le recteur de la mosquée de Villeurbanne, M. Captain, M. Gassi. Notamment, quand il y a eu l'année de la miséricorde. Vous vous rappelez, le pape François, il a fait le grand jubilé de la miséricorde. Et le peuple juif, il a été choisi par Dieu pour être serviteur de la miséricorde de Dieu, quand même. Il ne faut pas l'oublier. Donc, c'était très important pour eux. Et les musulmans, à chaque fois qu'ils disent le nom de Dieu, ils disent Allah, Akbar, il est grand, Raham, Rahmin. C'est-à-dire, il est très miséricordieux et tout miséricordieux. Donc, la miséricorde, c'est un concept central pour les musulmans et pour nous aussi. Et le peuple faisait un grand jubilé de la miséricorde. Du coup, j'ai dit aux juifs, venez nous expliquer ce qu'est la miséricorde. Aux musulmans, venez nous expliquer ce qu'est la miséricorde. On a ouvert les psaumes, on a regardé ce que l'évangile en disait. Et ça a été, je trouve, très enrichissant. Non pas pour se convertir les uns les autres, tout ça, mais parce que quand tu vois le sérieux de ce thème chez les autres, tu approfondis chez toi. Mmh. Oui, ça nous stimule tous, quoi.
Oui, et puis on vit le respect.
Oui, bien sûr. Mais là, c'est plus que le respect. Si vous voulez, moi, je pense que le dialogue interreligieux, vous avez le respect, on ne se marche pas sur les pieds, on ne dit pas du mal de l'autre, ça, c'est gagné. Après, vous avez l'amitié. On sait que ce sont des frères. Ça ne change encore pas grand-chose. Ce qui change, c'est le jour où on admire l'autre. Et l'admiration va être le début du change. Je prends un exemple. Le recteur de la mosquée de Villeurbanne, il me dit un jour... Vous savez, Monseigneur, il y a beaucoup de gens qui sont dans la nuit et qui sont dans la souffrance et dans le désespoir et dans les prisons et dans la maladie. Eh bien, moi, je me lève toutes les nuits pour prier pour ceux qui sont dans la nuit. Alors, lui, il est père de famille, il est prof de fac, il est recteur de mosquée. À 1h30 du matin, on peut faire des ablutions plus rapides. Je demande à Dieu sa miséricorde pour ceux qui sont dans les ténèbres et dans la nuit. Chez nous, qui c'est qui fait ça? C'est les trappistes. Hein. Moi, je ne le fais pas. Alors là, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas que je le respecte, c'est que je l'admire.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe? Quand il me raconte ça, j'ai envie d'être un peu plus sérieusement chrétien. Je me dis, mais quand même, je suis un chrétien médiocre. Et quand un juif fervent vous fait comprendre que vous êtes un chrétien médiocre, vous dites, allez, je me réveille, quoi. Et ça, c'est un cadeau que j'ai eu dans plusieurs endroits. Et ce sont des amitiés pour lesquelles vraiment je remercie Dieu. Je pense par exemple à toujours ce monsieur quand il est allé faire son pèlerinage à la Mecque. Il me téléphone avant et puis il me dit, je vais à la Mecque, c'est le grand événement de notre vie. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Je dis d'accord, j'ai fait chaque jour. Donc je demandais à Dieu, Seigneur Dieu, donne-lui tout ce que tu veux lui donner, tout ce que tu veux qu'il reçoive. Parce que moi, je sais que c'est son père, Dieu. Et donc je demande à Dieu de lui donner les cadeaux.
Ce dont il a besoin.
Voilà, tout ce dont il a besoin pour sa foi, pour sa vie, pour sa famille, pour sa mission. C'est quand même très beau. Après, moi, j'ai eu un infarctus. Il me téléphone quand j'étais à l'hôpital. Il me dit, à la mosquée, on prie tous les jours pour vous. Parce que votre santé, c'est très important. Pas que pour les catholiques, c'est très important pour nous aussi. Ça, ce sont vraiment des belles amitiés. Je remercie le Seigneur. Et je vous assure, c'est là que je me suis aperçu que j'étais un chrétien un peu médiocre et qu'il était temps que je me réveille. Donc quand les autres te stimulent pour être davantage ce que tu es, c'est beau. Ça, c'est un beau cadeau. Quoi.
Très. Ah oui, je comprends votre intérêt pour ce dialogue interreligieux. Hein. Et Jean-Paul II, alors?
Alors Jean-Paul II, c'est un petit bouquin rigolo. Parce
on
que,
change de sujet.
Non, quand il a eu 100 ans, il y a un éditeur qui a dit, je vais demander à 20 personnes, je ne sais pas si tout a été plus de chez qui, le cardinal Sarah, après et d'autres, bon, et il leur a dit, est-ce que vous pouvez... Comment vous l'avez vu? Parce que les grosses biographies sur Jean-Paul II, elles sont faites. La biographie de Weigel, c'est 600 pages. La biographie de Le Comte, qui est extraordinaire aussi. Enfin, il y a plein de grosses biographies qui ont été faites et qui disent tout. Donc, on ne me demandait pas de dire tout. On me disait, toi, tu l'as connu, Jean-Paul II? Bah oui, forcément, parce qu'il était pape quand j'étais prêtre depuis un an. Donc, j'ai vu tout son pontificat. J'ai lu, j'étais à la rencontre. J'ai fait les JMJ et les premières et les deuxièmes et tout et tout. Enfin, bon. Et bah, dis-nous comment tu l'as aimé. C'est pas raconter les rencontres. Alors, je l'ai vu un jour et j'étais à la messe de 8h, et puis après, on a pris le petit déjeuner ensemble, des trucs comme ça, on s'en fiche de ça. Ce qui m'intéresse, c'est comment toi, tu l'as vu? Comment tu l'as aimé? Et moi, ce que j'ai vu en lui, c'est pour ça que j'ai mis ça même dans le titre, c'est Saint-Pierre au tournant du millénaire. Quand on, lui, son grand but, c'était le jubilé de l'an 2000. C'est toi, lui avait dit le cardinal Wyszyński quand il a élu, c'est toi qui feras entrer l'Église dans le troisième millénaire. Donc il a énormément travaillé pour la préparation, il a été élu 20 ans avant la préparation du grand jubilé de l'an 2000. Et il savait qu'il était Pierre dans la barque de l'Église et qu'il devait faire passer ce cap. Et moi, je me disais, ce pasteur-là, il a un incroyable charisme de Saint-Pierre pétrinien, quoi. On a l'impression que c'est Pierre qui a débarqué en plein milieu. Et je commence par une réflexion d'une dame protestante, c'est incroyable. Un jour, je discutais de ce livre que j'étais en train de faire à la sortie d'une messe avec un écrivain. Et il me dit, je suis à la messe là, mais moi je suis une famille protestante et catholique, ma maman est protestante. Et comme il savait que j'écrivais le livre, il me dit, je vais vous raconter une histoire. Le 16 octobre 1978, quand il a été élu, ma maman, protestante, était devant la poste de télévision et elle dit, ah ben regarde, celui-là, il a la ligne directe, c'est Pierre aujourd'hui.
Ah oui.
Et j'étais vachement content parce que j'avais le même regard, moi, prêtre catholique, ou évêque ou cardinal catholique, c'est plutôt banal d'avoir ce genre d'idée, qu'une femme protestante qui avait dit ça à la première minute à son fils.
En le voyant, simplement.
En le voyant. Et le pape Jean-Paul II, il dit, à ce moment-là, j'ai salué tout le monde, je viens d'un pays lointain. Moi, je me rappelle très bien cette phrase, c'était un lundi soir. Et je me dis, il vient de Pologne. Donc pour les Italiens, ça leur fait un petit changement, parce que d'habitude, tous les papes étaient italiens. Et il dit, non. Et quand je disais, je viens d'un pays lointain, je pensais, je viens du lac de Tibériade. Je viens de... Et j'avais jamais pensé ça, mais c'est lui qui l'a dit.
Il était déjà Pierre. Oui.
C'est assez étonnant.
Ouais, ouais. Alors vous vous dites, c'est un petit livre.
Oui. Je vais vous l'offrir si vous voulez. Je crois que je l'ai là. Non, mais c'est un petit livre. On nous a demandé de ne pas trop dépasser les 100 pages, quoi. Pour pas lasser les gens. C'est pas une grande biographie, vous voyez. C'est ma mère qui publie ça, et c'est dire, toi, Philippe Barbarin, comment tu l'as vu, comment tu l'as aimé, comment tu l'as... Alors, je raconte des anecdotes, bien sûr, mais le fond de l'affaire, c'est mon amour pour lui, quoi. Et quand quelqu'un vous aimez bien, vous le regardez, vous dites, je l'aime bien parce que, comment tu le vois, quoi.
Et puis, vous avez beaucoup travaillé, vous travaillez toujours beaucoup pour les chrétiens d'Orient. Pourquoi est-ce que vous avez ce lien si fort avec eux ?
Ce sont les circonstances. Donc, quand je suis archevêque de Lyon, tout d'un coup, la Cato de Lyon organise un colloque entre les chrétiens d'Orient et l'islam. Sujet difficile, évidemment, parce que c'est assez conflictuel. Eh bien, on a invité un patriarche, il voulait en inviter un autre qui n'a pas pu, etc. Et est-ce que vous pouvez l'héberger à l'évêché ? Je dis, bien sûr. Donc, on lui donne une chambre, je lui parle le matin au petit déjeuner, on fait la prière ensemble, on dit la messe ensemble, et le soir on boit une tisane ou un truc comme ça, quand il a fait une conférence sur l'écouter. Et c'était le tout nouveau, donc nous étions en mars 2014, le nouveau patriarche de Bagdad. Il avait été évêque de Kirkouk, qui venait d'être élu patriarche de Bagdad, patriarche des Chaldéens. Les Chaldéens, c'est les catholiques d'Irak. Enfin, une partie des catholiques d'Irak. Alors, on a bien sympathisé, puis au revoir, et puis à quand le bon Dieu voudra, puis c'est tout, quoi. Enfin, bon. Or, le 9 juin, c'est-à-dire à peine 3 mois après, la ville de Mossoul tombe en une demi-journée. Une ville de 2 millions d'habitants. Donc, on est très perturbés, parce qu'il va y avoir des massacres et des trucs comme ça. Je l'appelle. Et je dis qu'il me raconte, il me dit, c'est terrible, parce que c'est plein de compromissions, ça va être l'occasion de violences énormes, il y a des violences épouvantables entre les Kurdes, les chiites et les sunnites. Nous, les chrétiens, on est là au milieu, on essaye de faire un peu de paix. On est très peu nombreux, on n'est pas en concurrence de pouvoir, nous, on n'est rien. Mais voilà. Et je dis, je passe vous voir. Il dit, certainement pas, jamais personne ne vient ici, tout le monde s'en fout de nous, etc. Je dis, raison de plus, mon cher, raison de plus. Donc je décide la date d'un voyage, je téléphone à Monseigneur Pontier, qui était le président de la conférence d'évêques, il me dit, ouais, on est très content que tu y ailles. Et puis je téléphone aussi à Rome, où j'ai le secrétaire d'État, le cardinal Parolin, qui me dit, bravo, très bien, oui, bien sûr, nous vous encourageons. Et je pars avec 2-3 autres évêques, Monseigneur Dubost, Monseigneur Stinger, beaucoup de presse, etc. Et le 17 juillet à midi, on entend dans toutes les mosquées de Mossoul. Je suis content de dire ça aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on avait dans les lectures Ninive, et Ninive, c'est Mossoul, comme vous savez. Demain, plus aucun chrétien dans Mossoul. Ou vous devenez musulman, ou on vous tue, ou vous partez. Donc, ils sont tous partis dans la nuit, dans des circonstances tragiques. On les a laissés partir quasiment tout nus. Ils sortaient avec leur voiture, on a piqué les voitures, enfin. Mais personne n'a été tué. Donc, ils ont été recueillis dans la ville d'Erbil. Et donc, quand je suis arrivé avec le patriarche, on est allé les voir et on a écouté 200 fois la même histoire. C'était d'une tristesse terrible. Ils étaient au bord du désespoir. Je voyais le patriarche qui se battait contre eux. Attention, vous êtes en train de faire un péché de désespoir. Tout ça. Et donc, un bon patriarche, quoi, qui aime son peuple. Lui-même, il avait été enfant à Mossoul. Il l'avait expulsé 3 fois de chez lui. Le patriarche Sacco, hein, quand même. Donc, il sait ce dont il s'agissait. Et à ce moment-là, j'ai dit, écoutez, je vous donne la Vierge de Fourvière, et quand Mossoul sera libéré, je viendrai la mettre dans la cathédrale. Et en attendant, on fait un jumelage entre Lyon et Mossoul. Et donc ça a été extraordinaire, parce que les Lyonnais se sont donnés énormément, très généreux, et puis plein de fondations s'y sont mises aussi, la fondation Mérieux, la fondation Raoul Follereau, la fondation Saint-Irénée, enfin c'était très beau. Et on a construit deux immeubles pour qu'ils logent, les Mérieux ils ont construit un centre de soins très performant, ensuite on a construit une école Saint-Irénée de 900 enfants, et une église et tout, enfin ça a été extraordinaire. On est même venu vivre la grande fête lyonnaise du 8 décembre, chez eux. Le 6 et le 7, c'était un week-end, et j'ai repris l'avion de nuit du 7 au 8 pour être le 8 décembre à Lyon, parce qu'à Lyon, c'est le 8 décembre la très grande fête de l'Immaculée. Et quand Mossoul a été libéré, le patriarche me téléphone, il me dit, ça y est, je rentre dans Mossoul le 25 juillet, vous venez avec moi. Alors ça, c'était une explosion de joie fantastique. Ce qui fait que le voyage prochain du pape maintenant, dès le début, j'ai dit au pape, il faut que tu y ailles, etc. Le pape m'a dit non, parce que tu vois, si j'y vais, ils vont mettre toute la sécurité sur moi et Daesh va en profiter pour massacrer un village de chrétiens. Donc maintenant, Daesh a été quand même vraiment diminué après tous ces trucs-là. Et donc, le patriarche, je l'ai encore eu au téléphone avant-hier. Il m'a raconté la préparation du voyage et tout et tout. Et il m'a dit non, on n'a pas peur, il n'y a pas de risque. Il n'a pas peur du tout. Il est très, très, très content que le pape vienne. C'est vrai qu'on l'attendait depuis quand même 6-7 ans, quoi. Le pape avait fait très attention tout de suite, parce que moi, quand j'étais revenu, j'avais dit attention, personne n'a passé un coup de fil, personne n'est venu, rien du tout, il faut faire quelque chose. Donc il a envoyé le cardinal Filoni, qui avait été nonce apostolique pendant la guerre à Bagdad, vivre toute la semaine sainte avec eux. Une année après, c'est le cardinal secrétaire d'État, donc le cardinal Parolin, qui est venu vivre la semaine sainte à Bagdad. Et puis après, il a donné un nouvel archevêque à Mossoul. On est allé à sa consécration à Bagdad. C'était vraiment très beau. Donc là, le pape, c'est son grand désir. Ça fait longtemps. Et c'est un voyage très, très bien organisé, avec un contact splendide avec un grand chef chiite. Donc il a fait très attention à aller voir les populations éprouvées, les autorités civiles, les autres grands chefs religieux, pour dire, dans la logique de son encyclique, tutti fratelli, quoi, arrêtez, on est des frères, nous sommes tous des frères.
Mmh. Oui, donc tout est bien préparé et anticipé.
Oui. Et d'ailleurs, le patriarche, il m'a dit, oh là là, il m'a dit, non, au Vatican, si tu savais comme ils sont exigeants. J'ai dit, tant mieux, hein, ils aiment leur pape, ils veulent faire attention.
Bon, on a encore un peu de temps pour parler maintenant de ce que vous vivez avec les petites sœurs.
Très reconnaissant à l'égard de Monseigneur Dornelas, parce que je suis à la retraite, mais vraiment c'est une belle retraite féconde et active, quoi. Donc la maison mère des petites sœurs des pauvres, c'est quand même un trésor. Hein. Oh, il y a 4 heures religieuses, et je vous assure, c'est des bonnes femmes en feu, quoi, si je puis dire. Il y a une énergie spirituelle, une soif de la parole de Dieu. C'est vraiment des servantes, hein.
Ah, puis elles ont eu une fondatrice tellement...
incroyable.
Exceptionnelle.
C'est que ceux qui sont éducateurs, ils voient les fruits, parce qu'ils ont eu des jeunes, et puis après, ils les voient devenus adultes. Et... tandis qu'elles accompagnent les gens à la porte de la mort. Donc, il n'y a personne qui revient leur dire merci. Oui. Et elles sont d'une attention pour que les gens arrivent à la grande porte en paix. Enfin, elles ont un savoir psychologique, une attention à la mentalité des vieillards et tout, plus une foi incroyable. Oui. Pour être les serviteurs aussi, non de leur corps, hein, de leur psychologie abîmée ou souffrante, et aussi de leur foi. Et là, en plus, il y a toutes les jeunes sœurs en formation, donc c'est quand même pas mal.
Il y a beaucoup de novices ?
Pas assez.
Il y en a.
Il y a 3 novices, et après, elles ont un second noviciat avant les professions perpétuelles, où elles sont une douzaine. Et donc, elles sont très demandeuses d'explications sur la Bible, sur le credo, sur ci, sur ça, etc. Et l'archevêque de Rennes, non seulement accepte que je sois leur aumônier, mais en plus m'a demandé d'assurer 1 ou 2 cours au séminaire.
Oui.
Et ça, c'est beau, parce que c'est des gars qui ont 25-30 ans, et puis ils en veulent, quoi. Ils donnent leur vie à Jésus maintenant, c'est pas forcément la période la plus porteuse, quoi. Il faut un certain courage. Oui. Et c'est des gars très clairs, quoi. Je les trouve très simples. Et puis ils disent, bon ben voilà, donc j'ai fait le cours sur l'église, je vous assure que je me suis fatigué, hein, j'ai travaillé. Et là maintenant, c'est les plus jeunes, je leur fais le cours sur le credo. Bon, c'est plus facile, parce que le credo, j'ai déjà expliqué 200 fois. Je suis très heureux, parce que je vois des gars simples, décidés, sérieux, clairs, quoi, et qui quand même donnent leur vie au Christ et à l'église, quoi. Chapeau. Hein.
Ouais, et il y a du travail pour les temps qui viennent,
oui,
je pense. Oui. Nous allons devoir nous quitter, Monseigneur Barbarin, et... je crois que vous aviez proposé dans votre diocèse, est-ce que ce n'était pas pendant le carême, de réciter tous les jours le Notre Père en araméen ?
D'accord, je vais vous le réciter. En fait, Quand j'étais à Mossoul et que j'ai fait ce jumelage, je leur ai dit, je vous promets que je dirai tous les jours le Notre Père en chaldéen. Donc je l'ai appris, mais je vais vous le dire là maintenant, comme ça, ça permet à tout le monde. Vous n'avez qu'à dire le Notre Père en français pendant que je dis en chaldéen, les uns et les autres, dans votre cœur. C'est très important de prier pour ce voyage. Donc il va voir les chaldéens, il va voir aussi les syriaques, il va voir tout le monde, mais le patriarche Sacco, c'est le patriarche des chaldéens, et il sait qu'on est en union de prière avec eux, bien sûr. Je le dis alors ?
Oui.
Avon de Bashmayo, Netakadashmar, Tete Malkutar, Nehoseo Yanahaye Kanada Bashmaya Bara. Haulan Lachman Sun Kanania Oman, Vashwoklan Haubayin, Wachta Hayena, Yikanada Bhanan Shuakin, El Hayawain. Ola Tarla Nesiuna, Ela Pasan Men Bisha, Metoldilaki Malkutar, Hailautesbot Al Alam, Almin. Amen. Merci madame, merci aux auditeurs.
Eh bien, merci beaucoup. Vous étiez sur notre radio chrétienne dans notre émission Connaissances et témoignages où je recevais avec joie le cardinal archevêque émérite de Lyon, Monseigneur Barbarin. À bientôt.